intéresse, je trouve assez extraordinaire, et bon, qui m'intéressait, j'y reviendrai un petit peu, parce que c'est la... Alors, je ne reviendrai pas, on verra bien sur le temps qu'on a, mais ça m'intéresse parce que c'est... Justement, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on a certaines idées de la poésie pure au XIXe siècle, quoi, bon, qui peut paraître un peu kitsch, quoi, bon, se transforme en fait en une espèce de valorisation de la modernité, disons, comme ça, de la performance, qui elle, en revanche, disons, prend tout de suite figure de, finalement, d'un petit peu de manifeste avant-gardiste, quoi. Donc, ça me fait cette transformation, en quelque sorte, des rêveries poétiques, comme ça, un petit peu, des gens qui rêvent sur Arlequin, Pierrot et Colombine au XIXe siècle, comment ça devient finalement une espèce de grand mot d'ordre finalement d'une modernité artistique qui est, disons, de l'âge, hein, de l'âge de Taylor, de la Colombine, voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Bon, alors, bon, je sais pas si, mais moi je suis prêt à prendre d'autres questions s'il y a d'autres questions préalables. Bon, sans ça, j'essaie d'avancer donc un petit peu donc dans cette seconde direction. Bon, je pense que seconde direction, donc des deux séances qui restent, bon, je voudrais qu'on avance, essayer d'avancer aujourd'hui et puis la prochaine fois, à la fois peut-être conclure, enfin conclure, et puis bon, en même temps, je ne laisse pas le temps pour la discussion. Quoi. Voilà, ce que je voudrais essayer, donc c'est au fond, à partir de ce que j'avais essayé d'analyser dans les séances précédentes, c'est une espèce de. Je dirais de divergence entre deux logiques, finalement, une logique de l'action, une logique des enchaînements causaux déterminés par des volontés qui poursuivent des buts, et puis deuxièmement, une logique des milieux sensibles, qui est une logique, à la fois une logique des états d'exception, quoi, donc la rêverie, donc l'état suspensif, et puis une logique de ce qu'on pourrait appeler la dispersion, à savoir que finalement, il y a du drame partout, et qu'il y a du drame partout, et que n'importe qui... N'importe qui, dans les tréfonds du peuple, il est capable d'être sujet de drame, non sans sujet de drame, mais éventuellement d'avoir accès à n'importe quelle forme sensible. Donc, ça, c'est un petit peu l'horizon, en quelque sorte. Moi, ce sujet-là, si jamais, éventuellement, je vous passerai, parce que ça peut être utile, j'ai pas eu le temps de le commenter, mais bon, c'est aussi des choses qui font un peu époque. Il y a ça, un texte des années 60, c'est une préface à Manon Lescaut, quoi. Et qui est très intéressante parce que le type, c'était donc, effectivement, le discours des années 1860, à savoir. Bon, n'importe qui dans le peuple est finalement capable de n'importe quoi, etc., du sentiment, etc., tout ça, donc c'est une catastrophe. Et donc, étant, il fait à Manon Lescaut en disant dans le temps, les choses étaient dans l'ordre, quoi, c'est-à-dire qu'il y avait dans l'ordre, c'est-à-dire que même le désordre était dans l'ordre, c'est-à-dire qu'éventuellement il y avait des gentilshommes qui s'encanaillaient avec des filles de joie, mais les filles de joie n'étaient que des filles de joie, etc., alors que maintenant n'importe quelle grisette finalement. En quelque sorte, joue tous les rôles, joue à la fois le rôle de la petite jeune fille normale et puis le rôle de la courtisane, et ainsi de suite. Bon, c'est un texte assez intéressant, bon, de ce point de vue-là, sur ce thème, en quelque sorte, de la démocratisation du sensible, d'une certaine façon. Voilà, enfin bon, j'essaierai de vous passer ça pour éventuellement. Bon, c'est pas que je compte en discuter, mais ça fait partie, en quelque sorte, un petit peu de l'horizon de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéresse, donc, c'est bon, donc, cette espèce de divergence entre deux logiques, quoi. Donc, j'avais essayé de travailler à travers donc, des grandes fictions romanesques, à travers Balzac, et de voir donc, comment, en quelque sorte, ça obligeait à cette espèce de surenchère de la surfiction. Donc, j'ai un petit peu analysé rapidement à travers Zola, quoi. Et donc, là, je voudrais un petit peu voir ce qu'il en est, justement, à travers, au contraire, un petit peu le développement des petites formes, puisque bon, ce qui paraît effectivement quand même un des aspects importants peut-être de la nouveauté littéraire, c'est le développement des petites formes, l'avènement du poème en prose, la transformation un petit peu du sens d'une forme ancienne qui est la nouvelle. Donc, voir comment à travers ça donc, se définit comme une espèce d'autre forme, un petit peu comme de transformation, de passage à la limite de la fiction, ce que j'ai tout à l'heure, la manière dont, au fond, l'intrigue fictionnelle tend à se déplacer, à se réduire à quelque chose comme la rêverie, c'est-à-dire, au fond, comme une espèce d'attitude subjective, un petit peu de mise en suspens, en quelque sorte, de la situation, de mise en suspens du spectacle. Mais aussi comment, disons, à l'inverse, en quelque sorte, la rêverie trouve son analogue, trouve son, quelque sorte, privilégié dans quelque chose qui est la performance pure, donc ce qu'on pourrait appeler le poème sans parole, le poème muet, donc du mime ou de la danseuse. Donc, voilà, à l'horizon un petit peu de ce que je propose aujourd'hui, mais y a cette espèce de double mouvement, en quelque sorte, comment, disons, l'action, en quelque sorte, se transpose, se dilue en rêverie, mais comment la rêverie, d'un autre côté, se concrétise en performance. Bon, alors, bon, pour ça, donc, je voulais repartir du texte, donc, de la nouvelle de Balzac, qui s'appelle Facinocane. Facinocane, donc, parce que, bon, en un sens, on peut effectivement voir à partir de là comme des espèces de destins effectivement divergents de la petite forme. Qu'est-ce qui organise donc cette nouvelle, bon, Facinocane, c'est donc, on va dire, bon, c'est cette fameuse théorie du drame latent dont j'ai parlé la dernière fois, enfin il y a deux fois, à propos de Ferragus, quoi. Donc cette idée en quelque sorte que bon, il y a partout dans le tissu social, de fait, cette espèce de circulation comme ça. Nouvelle, un petit peu, des énergies, des passions, de disponibilité finalement, des sensations, des passions, il y a partout, d'une certaine façon, comme des points de condensation possibles. Et par conséquent, on peut toujours trouver un drame derrière chaque visage, donc, qui descend dans la rue, qui regarde un passant, qui entre dans un bal populaire ou un café, qui regarde notamment derrière une fenêtre dans une rue un peu louche. Bon, celui-là, en quelque sorte, est en présence d'un tel drame possible, disons, qui est possible d'actualiser. Bon, donc, ici, bon, le Facinocane, donc, c'est, bon, disons, donc, un exemple parfait, dans un sens du drame latent, donc, disons, l'histoire de l'homme de lettres qui se promène dans les faubourgs, qui écoute les artisans, qui est invité par sa femme de ménage à la noce d'un parent, et là, disons, s'arrête sur le visage d'un des aveugles qui compose l'orchestre, comme ça se faisait souvent à l'époque, et donc le drame se déroule, et le drame qui va nous conduire jusque-là. Jusqu'à Venise, ses richesses, ses prisons, son doge, et ainsi de suite. Bon, en un sens, bon, il est bien vrai qu'on peut dire qu'ici, le drame latent est un peu truqué, quoi. Un peu truqué, je veux dire par là que, ce qui est en quelque sorte comme espèce de drame possible derrière chaque personnage un peu anonyme, quoi. Bon, évidemment, ici est un petit peu, en quelque sorte, capté par bon, autre chose, à savoir, bon, finalement, une espèce de vieux schéma fictionnel, soit de l'enfant trouvé, soit du noble déguisé en pauvre ou réduit à la pauvreté. Donc, derrière le vieillard pauvre et aveugle, il n'y a pas simplement un destin singulier, comme tout destin singulier, mais bon, donc un grand seigneur et un grand seigneur donc exilé de Venise, mais qui détient le secret de la Sérénissime, qui sait où est son or, qui est capable de s'en emparer, qui promet la toute puissance. Donc un peu un personnage à la Vautrin ou à la De Marsay, d'une certaine façon, derrière ce vieillard pauvre et aveugle. En même temps, ce qui est significatif, c'est que, cette espèce de délire, en quelque sorte, de grandeur, si on peut dire, quoi, dans quelque sorte d'exploration du personnage, donc cette espèce de rêve, d'or, de puissance, on tourne court dans ces deux lignes finales, donc, puisque donc Facinocane, etc., a demandé au narrateur d'aller avec lui à Venise, donc il promet l'or et ainsi de suite, demande quand est-ce qu'on part. Donc le narrateur dit, peut-être nous avons quelque argent, et puis, il y a cette fin brutale, donc Facinocane est mouru pendant l'hiver, après avoir langui deux mois, le pauvre homme avait un catarrhe. Ce qui fait que, bon, c'est un peu comme la fin finalement des trois histoires des treize, à savoir que finalement, le grand schéma de toute puissance, finalement, se trouve comme court-circuité, comme une espèce de mot de la fin qui fait que, disons, le grand seigneur exilé qui promettait un petit peu la clé de toutes les richesses et toute la puissance sociale, donc se retrouve comme étant simplement effectivement un pauvre homme, disons, qui meurt d'un catarrhe, comme tous les pauvres vieux des hospices. Bon, donc ce qui fait que du même coup, ça nous oblige en quelque sorte à déplacer notre intérêt vers l'autre logique organisatrice du texte, quoi. À savoir, pas tellement celle, disons, du patricien qui a eu des malheurs, mais celle de l'écrivain qui s'en va à l'aventure dans les faubourgs, et pas forcément pour y trouver, disons, le trésor de la République vénitienne. Donc, et bon, disons, dans, ce qui me paraît intéressant, là, un petit peu, dans cette d'autre logique, quoi. Au fond, c'est le lien entre deux aspects, quoi. Deux aspects que j'appellerais très sommairement, quoi, une poétique de la métamorphose et une poétique de l'exploration sociale. Poétique de donc, la métamorphose, au début du texte, donc dans le deuxième paragraphe de Facinocane, qui commence par « Lorsque, entre 11h et minuit, je rencontre un ouvrier et sa femme, donc j'amuse à les suivre, bon, un peu plus loin, donc dans ce paragraphe, il dit ceci. En entendant ces jeux, ces gens, que pouvaient épouser leur vie, que me sentais leur guenille sur le dos, je marchais les pieds dans leurs souliers percés. » Bon, ça, il semble que ça, c'est quelque chose dont Rimbaud se souviendra dans la Bas Bohème, etc. Donc, les poches percées, j'en ai mais on a les poches percées. Bon, leur désir, leur besoin, tout passait dans mon âme, ou mon âme passait dans la leur. C'était le rêve d'un homme éveillé. Je m'échauffais avec eux contre les chefs d'atelier qui les tyrannisaient contre une messe pratique qui les faisait revenir plusieurs fois sans les payer. Quitter ses habitudes, devenir un autre que soi par l'ivresse des facultés morales et jouer ce jeu à volonté, telle était ma distraction. À quoi dois-je ce don? Est-ce une seconde vue? Est-ce une de ces qualités dont l'abus mènerait à la folie? Je n'ai jamais recherché les causes de cette puissance, je la possède et je m'en sers, voilà tout. Bon, un peu plus bas, etc. Un peu plus bas, il est expliqué ce en quoi finalement. Ce que permet cette puissance, vous ne sauriez imaginer combien d'aventures perdues, combien de drames oubliés cette vie de douleur, combien d'horribles et belles choses l'imagination n'atteindra jamais au vrai qui s'y cache et que personne ne peut aller découvrir. Il faut descendre trop bas pour trouver ces admirables scènes, ou tragiques ou comiques, chefs-d'œuvre enfantés par le hasard. Bon, ce qui est en jeu donc ici, bon, c'est tout. C'est une idée du travail fictionnel. Donc, un travail fictionnel ne consiste pas à inventer des histoires, à inventer des personnages, soit fabuleux, soit imité du réel. Le travail fictionnel, en quelque sorte, est une manière, je veux dire, de s'introduire dans le réel, en ce qu'il a de plus radicalement donné, d'autres, d'étrangers à nous. Donc, il s'agit d'imaginer en quelque sorte ce qui par ailleurs est donné, ce qui n'a pas besoin d'être de nous pour exister. Donc non point imaginer, non point inventer des histoires, mais d'une certaine façon prêter une imagination à ce qui par ailleurs existe déjà en chair et en os. Donc, pour ce qui est en jeu, donc une poétique de la métamorphose, si on veut de l'identification, mais une identification bien spéciale, parce que bon, dans un sens, se mettre à la place de tel ou tel personnage, dans un sens, on sait faire ce que fait ce qui est normalement le rôle de l'acteur, mais à ceci près que, on n'est plus dans le domaine du théâtre, mais aussi que l'acteur prête son corps à un texte, l'acteur prête ses gestes et sa voix à, disons, quelque chose qui existe, fictionnellement sur le papier, un personnage de théâtre, un personnage d'écriture, quoi. Alors qu'il s'agit ici d'autre chose, il s'agit de prêter, en quelque sorte, de prêter son âme, si on veut, ou de prêter son imagination, mais aussi de prêter son corps à l'invention d'une vie qui par ailleurs existe déjà par elle-même. Bon, le poème est déjà là, un peu plus loin, lorsque le héros s'est fixé sur le personnage du père Canet, alias Facino Canet. Bon, il dit ceci, quelque chose de grand et de despotique se rencontrait dans ce vieil Homère qui gardait en lui-même une odyssée condamnée à l'oubli. Une odyssée condamnée à l'oubli, bien sûr, c'est le mot essentiel. Autrement dit, le poème existe déjà, il est là muet et aveugle. Il s'agit de le faire parler. Précisément, le poème, ça n'est plus l'Odyssée, le poème, ça n'est plus ce qu'écrivent les poètes, le poème, c'est une figure, qui est une figure muette, donc il s'agit de faire parler. Pas à la manière de l'acteur qui interprète. L'acteur qui interprète a un texte à disposition et, disons, il se moule sur ce texte. Bon, ici, disons, le personnage, encore une fois, existe par lui-même. Bon, ce qui n'existe pas en un sens, c'est ce qui qui n'est pas donné, on sait ce qui est dans sa tête, mais le personnage existe par lui-même. Donc il ne s'agit pas de, d'incarner au sens de l'acteur, il ne s'agit pas, d'interpréter au sens de l'acteur, il s'agit de devenir un autre que soi, bon, je reprends le texte, par l'ivresse des facultés morales. Bon, ce texte pratiquement sera presque paraphrasé par Baudelaire dans Les Foules, donc dans le film de Paris, si vous le prenez. Bon, Les Foules, on peut dire que bon, vous retrouvez exactement ce thème de l'ivresse, de celui qui peut entrer dans n'importe quelle vie. Donc entrer dans n'importe quelle vie, mais précisément en tant que cette vie existe déjà, existe indépendamment, indépendamment de vous. Bon, ce qui est dit ici par Balzac sur le, un petit peu sur le mode de, du conte oriental, à savoir donc je suis comme ce personnage un petit peu. Donc ce personnage de conte oriental, disons, qui est capable de se, disons, de se métamorphoser en tout autre personnage. Mais bon, l'important, donc, l'important ici, donc, c'est au fond définir comme un tel d'objet nouveau du travail fictionnel, à savoir le réel en tant qu'il, en un sens, bon, il est déjà donné, en tant qu'il échappe, bon, c'est ce qui est dit au fond dans le rêve de l'homme éveillé, bon, avec cette dimension du rêve, à savoir que le propre du rêve est que ce qui le peuple ne dépend pas de nous, et disons, au fond donc, disons, le rêve de l'homme éveillé, cette manière en quelque sorte de, bon, comme de rêver ce qui par ailleurs est entièrement, réel. Entrer dans un autre corps, ça ne veut pas dire forcément, disons, sur le, entrer dans une espèce de, disons, d'univers fabuleux, quoi. Il s'agit d'entrer comme dans l'extraordinaire d'une vie ordinaire, mais au fond, l'extraordinaire d'une vie ordinaire, c'est simplement, c'est pas nécessairement qu'il y ait des choses extraordinaires comme dans ce cas-ci, quoi. Mais c'est simplement, le fait même, cette vie ordinaire soit une vie bon, fermée, que ce soit un monde inconnu, bon, on peut dire la vie d'une autre, comme la vie d'une autre monade, quoi, dans lequel bon, faut, donc, l'univers se réfléchit solitairement. Bon, autrement dit, ici, ce que vous avez, c'est un petit peu ce qui sera encore l'équation baudelairienne déjà présentée, bon, solitude et multitude, quoi, solitude et multitude équivalentes. Pour autant, justement, que, bon, aller dans la multitude, c'est pas se perdre dans la foule, se faire bousculer, se laisser emporter par les langues, etc. Mais au contraire, c'est bon, s'enfoncer dans une, bon, multiplicité, qui est une multiplicité en même temps de solitude, bon, de menades, qui chacune, effectivement, on peut dire, exprime l'univers entier, mais l'exprime, on peut dire, bon, solitairement. Bon, ça, c'est le premier point, donc, ce que j'appelais poétique de la métamorphose, qui se. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que ça se lie à un second point. Qui est ce que donc cette poétique, ce que j'ai appelé poétique de l'exploration sociale, puisque ce voyage, vers l'inconnu, ce espèce de travail d'identification à l'autre, en même temps, on peut dire, est un travail d'identification à l'autre, on peut dire, socialement, en quelque sorte, caractérisé, quoi. Donc, disons, le poète s'en va, donc, disons, l'homme, disons, le, de la fiction, s'en va donc se promener, non pas n'importe où, mais dans le faubourg. En fait, là où il habite, il pourrait aussi bien aller vers le marais que dans le faubourg. Enfin, disons un petit peu les vieilles, mais disons l'aristocratie un peu dépassée, que vers disons, le quartier ouvrier. Quoi. Il va vers le quartier ouvrier. Autrement dit, le site privilégié de la rêverie, c'est la foule. Mais la foule, bon, en même temps, pas n'importe quelle foule, la foule est à de loisirs. Donc, bon, disons. Dans ce début de Pacino Cane, il s'agit de rencontrer les gens bon, après le travail, à la sortie du théâtre, bon, et disons finalement là, dans la noce. Donc, objet en quelque sorte privilégié de cette espèce de, disons, de travail de métamorphose, donc la foule livrée à ses plaisirs, ou bon, plus tard chez Baudelaire, regardant les plaisirs des autres. Donc, le loisir de la multitude, ça veut dire aussi la foule en tant que multiplicité d'individus qui, justement, maintenant, ont accès à la vie du loisir, maintenant, sont capables, disons aussi, comme les autres, d'interrompre le travail et de ne rien faire. Donc, ce qui m'intéresse en même temps aussi, c'est dans ce texte et dans ce qui va un petit peu, découler de lui, quoi, c'est justement un écart par rapport à. Au fond, un mode d'observation de la foule et de la foule populaire, bon, qui est celui des typologies sociales. Si vous voulez, bon, on peut penser ça en comparant, par exemple, justement, un texte comme celui-là, et bon, si en plus encore un petit peu un poème en prose de Baudelaire, à un texte de référence qui serait le texte des Nuits de Paris, donc des Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne, à la fin, donc texte écrit à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, le texte Rétif de la Bretonne appartient à un genre, en quelque sorte, au fond, justement, le genre de, un petit peu, recherche du pittoresque populaire, au fond, l'explorateur, disons, l'explorateur s'en va pour, en quelque sorte, bon, apporter comme une espèce de, disons, un petit peu de connaissance d'un monde exotique qui est caché là, en même temps tout près dans les faubourgs, juste à côté de l'endroit où habitent des lecteurs éventuellement aristocratiques. Donc dans les Nuits de Paris, comme ça, bon, c'est construit avec une série de petites scénettes comme ça, de la vie nocturne, avec comme une espèce d'équivalence justement au fond entre vie nocturne et vie populaire. Quoi. Vie nocturne, bon, bien sûr, c'est la vie en quelque sorte secrète, qui commence quand la nuit tombe, mais ça correspond aussi un petit peu à justement l'envers un petit peu de la société, le côté obscur de la société. Donc, au fond, ces Nuits de Paris, c'est comme des petites scénettes de la vie populaire, disons, qui sont comme offertes, un petit peu au plaisir, de lecteurs aristocratiques, bon, curieux de savoir justement ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ça veut dire une distribution des petites scènes avec d'une part un petit peu les personnages un petit peu obligés, bon, les prostituées, les voleurs, les assassins, les misérables, etc., les sans-logis, et ainsi de suite, quoi. Avec deuxièmement des personnages, bon, plus ou moins extravagants, quoi, comme bon, personnage de l'homme qui s'en va toutes les nuits pour décoller les affiches, non pas pour faire œuvre d'art à l'époque, mais pour les revendre, mais pour revendre du papier aux épiciers et en garder le rebut pour son chauffage. Pour son chauffage l'hiver, ou bien l'homme qui, à la nuit tombée, s'en va ramasser des épluchures d'herbe partout, etc., pour nourrir ses lapins, parce que, disons, ne pouvant plus travailler son métier de charpentier, donc il a trouvé à se reconvertir et à avoir son petit élevage de lapins, et donc il s'en va un petit peu honteusement toutes les nuits pour avoir gratuitement ce qui permet de nourrir les lapins qui l'enrichissent, quoi. Bon, il y a ça, et puis il y a simplement, je dirais, aussi des personnages un petit peu de gens qui regardent, comme ça, il y a une espèce de, par exemple, bon, les jeunes femmes qui, disons, s'assoient à la nuit tombée, disons, l'été, sur le pas de la porte, et qui regardent un peu le spectacle de la rue. Le spectacle de la rue, comme on pourrait regarder le spectacle de l'opéra, directif de la Bretagne. Bon, donc il y a cette espèce de tradition, en quelque sorte, je dirais, comme du voyage un petit peu de l'autre côté, du côté de l'exotisme, populaire. Bon, à l'époque de Balzac, ça se prolonge encore. Bon, il y a un peu comme une parodie dans Les Nuits d'Octobre de Gérard de Nerval. Mais bon, c'est aussi l'époque donc, où se développe cette forme qui s'appelle la physiologie, donc, où justement on fait la physiologie de toutes les figures possibles qui peuvent occuper la grande ville. Or, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon ici, bon, on va dire que quelque chose de nouveau commence là où on sort de la simple observation, simple description des espèces sociales pour s'arrêter sur une figure qui est une figure singulière, qui justement n'appartient pas à une espèce sociale qu'on pourrait décrire et mettre dans une espèce justement de, un petit peu de panorama pittoresque de la vie urbaine, quoi. Bon, vous trouvez la même chose dans un texte qui est écrit 4 ans plus tard, qui est bon, le célèbre Homme des foules de Edgar Poe. Vous avez cette construction qui est tout à fait significative, c'est-à-dire si vous vous souvenez de l'homme des foules, à savoir qu'au début il y a quand même une espèce de description de toutes les espèces sociales, les différentes espèces de commis, les commis des maisons louches, les commis des maisons sérieuses, bon, et ainsi de suite, quoi. Bon, et puis bon, la haute pègre, les commis porteurs, toutes les catégories en quelque sorte traditionnelles, un petit peu une description du peuple, et puis il y a un point d'arrêt de cet homme, justement, l'homme des foules. Bon, qui n'est plus caractérisable, même s'il est en guenille, mais justement, derrière sous ses guenilles, on aperçoit du linge blanc et même un poignard et un diamant, etc. Bon, ça, c'est un peu le côté Balzac, si j'oserais dire, en tout cas, le côté de Garpo, bien sûr, un petit peu, mais c'est, disons, c'est le côté, en quelque sorte, effectivement, grandeur sous la misère, quoi. Mais ce qui est important, justement, c'est qu'il y a comme une espèce de passage, à un moment donné, la description, la typologie sociale s'arrête, bon, sur une figure singulière, quoi. Bon, ici, dans Chinookan, on peut dire qu'il y a un petit peu qu'il y a un passage du même genre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, il y a comme trois moments trois moments dans le début du texte, quoi. Un moment qui est celui de l'observation. Donc, l'écrivain, le narrateur se promène, il écoute, donc il écoute ce que les gens disent sur l'atelier, sur la cherté de la vie, sur les spectacles, bon, et ainsi de suite, quoi. Et puis il y a ce deuxième moment lorsqu'il est invité à la noce, où, disons, bon, il accepte parce que, dit-il, il pense se blottir dans la joie des pauvres gens. Donc, au fond, il ne s'agit plus là d'une observation, de quelque chose comme une expérience d'altérité, en quelque sorte, comme d'arriver à loger, au fond, ses sens dans les sens, dans le sensorium, justement, des autres. Et puis, il y a le troisième moment, qui est proprement, on peut dire, l'expérience du mystère, donc, les visages muets, et le visage éloquent de l'aveugle, donc, au fond, ce qui se définit, donc, c'est comme une espèce de travail nouveau de la fiction, qui consiste à s'arrêter un petit peu sur ces singularités muettes, bon, qui sont, comme il dit dans le texte que j'ai dit tout à l'heure, des chefs-d'œuvre créés par le hasard. Et bon, bien sûr, les chefs-d'œuvre créés par le hasard, bon, c'est important parce que le hasard s'oppose à deux choses. Bon, d'une part, bien sûr, l'invention, donc le chef-d'œuvre créé par l'invention de créer des chefs-d'œuvre, et bien sûr, mais aussi le hasard s'oppose à la nécessité, c'est-à-dire à la façon dont, justement, en quelque sorte, bon, un corps, une situation, bon, obéit à une espèce comme ça, ben, de nécessité des choses. Quoi. Donc, disons que les chefs-d'œuvre du hasard, ce sont précisément ces configurations singulières qui arrivent dans le champ de ce qui est visible, mais qui précisément s'imposent comme n'étant pas inventées, comme notamment n'étant pas imaginables, mais qui aussi s'imposent comme une rupture par rapport à la nécessité, à l'ordre normal des choses, comme des espèces, donc comme des formations géologiques singulières. Et donc, à ce moment-là, on se définit comme une poétique, qui est effectivement la poétique qui va comme animer cette espèce de paysage mu, de se prêter soi-même comme à incarner cette espèce de visage singulier. Bon, ici, je le disais tout à l'heure, justement, on a affaire à une espèce de récit un peu entre deux logiques, puisque, bon, le chef-d'œuvre du hasard, en même temps, est donc cette espèce, personnage qui a une histoire exemplaire, mais pas du tout, effectivement, on peut dire, hasardeuse, quoi. Donc, en fait, chez Okane, que Balzac conçoit comme un conte philosophique, donc c'est comme, on voit bien comment on a un récit à cheval, en équilibre entre deux logiques, quoi. Bon, cette logique de la toute-puissance qui traverse l'œuvre de Balzac, quitte à finalement arriver chaque fois, à sa propre révocation, et puis cette logique du hasard, cette logique de l'inconnu. Bon, c'est à partir de là que je voudrais un petit peu étudier l'évolution de ce modèle, quoi. Bon, là encore, je le fais de manière assez grossière, parce que le temps nous est compté, donc j'essaye de définir un petit peu des choses comme des hypothèses, évidemment. On doit pouvoir, trouver 20 ou 30 ou 50 exemples qui les contredisent, qui permettent de les discuter. Donc voilà, en tout cas, je propose en quelque sorte comme une espèce de schéma possible d'interprétation, d'intelligibilité, font de penser un petit peu ce qui se passe entre l'évolution du poème en prose et l'évolution de la naissance du poème en prose, l'évolution de la nouvelle, comme justement une espèce de règlement de ce qui est encore là, en quelque sorte en équilibre, quoi, comme une espèce d'éclatement de ce espèce de surpouvoir imaginaire là que se propose le personnage. Parce que c'est important, quand je parle, de ces logiques du surpouvoir, il y a deux choses. Il y a d'une part, le personnage de fiction, maître du monde, quoi. Et puis il y a, ce regard qui prétend tout pénétrer. Donc je dirais qu'il y a donc une espèce de logique subjective, où celui qui se métamorphose, celui qui entre dans toute autre vie, le fait au nom d'une espèce de pouvoir, qui est lui, de métamorphose, qui est lui-même un pouvoir infaillible, je ne le développe pas ici, mais disons, décrit avec un peu de complaisance la façon dont sa pensée vient coïncider exactement avec celle de l'aveugle. Donc il possède cette espèce de travail fictionnel nouveau en même temps et décrit comme un travail un petit peu de, disons, qui permet de rentrer exactement dans la pensée et dans l'histoire de n'importe quel visage muet. Or, ce que je voudrais étudier, c'est la façon dont cette espèce de surpouvoir, quelque sorte inventé, on se trouve comme cassé en deux, avec d'un côté, et disons particulièrement dans la forme du poème en prose, la logique de la rêverie où justement on ne pénètre pas dans l'intérieur du visage muet, mais au pire on reste devant un spectacle dont la signification demeure largement indéterminée, donc disons logique de la rencontre suspendue, qui on pourrait caractériser la forme du poème en prose, et puis à l'inverse, au contraire, une logique, disons un petit peu du scalpel, du fer qui pénètre, disons un petit peu dans la plaie, quoi, du coup de force qui justement va faire virer au drame ouvert cette espèce de situation normale. Plus ou moins, beaucoup, finalement, le drame est plus ou moins latent, mais recouvert, et donc, d'une certaine façon, sans signes apparents. Donc, je dirais deux logiques, une logique du poème en prose, qui serait cette logique, au fond, le spectacle est comme rendu à son indétermination, et une logique inverse, dans la nouvelle, où, au contraire, d'une certaine façon, le spectacle normal vire au drame, et il y a comme une espèce de trou qui est creusé dans la normalité, comme un abîme qui est creusé sous cette surface. Bon, logique de la... Donc voilà, bon, je voudrais proposer quelques hypothèses donc à partir des deux poèmes en prose et des trois nouvelles de Beauclerc et les trois nouvelles de Maupassant que je vous avais proposé la lecture. Donc, un premier côté, donc développement d'une logique de la rêverie du côté du poème en prose. Bon, dans l'idée du poème en prose, il faut bien avoir en tête qu'il y a deux choses. Quoi. Un poème en prose, c'est évidemment tout le sens le plus immédiat, un poème qui n'est pas en vers. Quoi. Donc un poème qui n'a pas un poème sans rime, un poème sans rime, un poème sans mesure, sans rythme défini, sans mesure fixe. Donc un poème sans ce qui a toujours plus ou moins... a toujours défini le poème, le rythme, éventuellement, qui peut prendre des figures différentes selon que les langues sont accentuées ou non accentuées, mais toujours d'une certaine manière, l'idée d'une mesure propre séparant le poème. Donc l'idée du poème en prose, bien sûr, c'est le poème qui n'est pas en vers, quoi, mais aussi le poème en prose, c'est l'idée du poème qui tire en quelque sorte sa matière de la vie prosaïque elle-même. Et au fond, c'est-à-dire le poème adéquat justement à, au fond, n'importe lequel de ces drames virtuels que contient la vie dite prosaïque. Et bon, et dans la préface du Spleen de Paris, on peut dire que Baudelaire met en équivalence, en quelque sorte, en correspondance trois choses. La possibilité d'une prose rythmée nouvelle, le rythme intérieur des rêveries de l'âme et le rythme de la ville avec, dit-il, le croisement de ces innombrables rapports qui font la vie d'une ville. Bon, je crois qu'il faut bien comprendre cette adéquation. Bon, il y a une analogie un peu superficielle à laquelle Baudelaire se prête lui-même éventuellement, à savoir une espèce de correspondance entre comme ça les ondoiements de la rêverie et puis les ondoiements de la foule, quoi. Mais le fond du problème, c'est pas là, quoi. Le fond du problème, c'est, bon, disons, ce qui se définit là, c'est un poème qui n'est plus défini par une matérialité propre du poème, qui n'est plus défini non plus par un type finalement de sujet, de situation, de sentiment propre au poème. Donc le poème, dans le sens qu'il n'a plus de matérialité propre, plus non plus de sujet propre, mais le poème qui est quelque chose, qui est devenu quelque chose comme une espèce comme une structure de perception du poétique, quoi. Le poème devient quelque chose comme une structure de détection du poétique dans le prosaïque. Bon, il y a, je vous renvoie puisque c'est la journée d'Anville, un texte qui est le texte que donc au moment de la publication des, au moment de la publication des, donc, du Spleen de Paris, quoi. Bon, qui est un mot intéressant, enfin, bon, surtout si on voit un petit peu où il va. Voici mille ans qu'on nous répète avec pitié. Que seriez-vous sans le vers, sans le rythme, sans la rime, sans ces enchantements, tout matériel, qui tout d'abord vous assure la complicité de nos sens, berce l'âme d'une ivresse musicale et dissimule sous les richesses de leur broderie mélodique l'indigente simplicité de vos pensées, prétendues pensées prêtées à l'adversaire, dont on trouve un petit peu la traduction chez Rimbaud, lorsque Rimbaud parle de Racine, il dit, bon, etc., bon, l'idiot sublime, sur une soufflée sur ses rimes, il n'y a plus rien. Donc, et bon, la réponse ici donc de Banville. Eh bien, les poèmes en prose de Charles Baudelaire répondent à cela encore. Ôtez au poète le vers et la lyre, mais laissez-lui une plume. Ôtez-lui une plume, cette plume, elle est celui la voix. Ôtez-lui la voix, elle est celui le geste. Ôtez-lui le geste, attachez ses bras. Mais celui la faculté de s'exprimer par un clin d'œil, il sera toujours le poète, le créateur. Et s'il n'est plus permis que de respirer, sa respiration créera quelque chose. Bon, c'est un peu donc dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, la manière dont finalement l'action se perd en rêverie, et la rêverie à la limite en performance. Donc en l'occurrence, le poème est un regard. Le poème est quelque chose comme la respiration d'un regard, pourrait-on dire. Donc un poétique qui est très un poétique, bon, qui se trouve dans la rue, dans la foule, mais encore une fois très différent du pittoresque, du caractéristique, puisque au contraire, on peut dire c'est quelque chose comme l'éloquence du muet. L'éloquence sur le vide, l'éloquence qu'on cherche à traduire telle qu'elle existe dans l'expression de ceux qui n'expriment pas grand-chose, dans la démarche de ceux qui ne vont nulle part, et au fond dans toutes les formes d'expression de ceux qui ne sont pas justement habitués à s'exprimer poétiquement ou à être regardés comme des êtres poétiques. Donc fondamentalement, disons, quelque chose comme un déplacement de la fiction, disons le travail de la fiction, c'est quelque chose comme l'organisation d'un regard, et comme la mise de ce regard comme en rythme, quoi, comme en respiration. Mais disons, donc cette espèce de respiration du regard, si on peut dire, va prendre pour objet justement l'éloquence de la rencontre avec justement des vies obscures. Bon, ceci bien sûr, particulièrement marqué dans les extraits que j'ai choisis, bon, bien sûr, il y a toujours de l'artifice dans le choix, quoi. Et bon, j'ai un petit peu choisi aussi pour permettre un petit peu de comparer des textes qui ont à voir tous avec les paysages parisiens et éventuellement les loisirs populaires. Je prends le début des donc dans les poèmes. Le Bovenard me dit que dans les jardins publics, il y a des allées hantées principalement par l'ambition déçue, par les inventeurs malheureux, par les gloires avortées, par les cœurs brisés, par toutes ces âmes tumultueuses et fermées en qui grondent encore, dernier soupir d'un orage qui recule loin du regard insolent des joyeuses des oisifs. Ces retraites ombreuses sont les rendez-vous des éclopés de la vie. C'est surtout vers ces lieux que le poète et le philosophe aiment diriger leurs avis de conjecture. Il y a là une pâture certaine, car s'il est une place dédaigne de visiter, comme j'insinue tout à l'heure, c'est surtout la joie des riches. Cette turbulence dans le vide n'a rien qui les attire. Au contraire, elles se sentent irrésistiblement entraînées vers tout ce qui est faible, ruiné, contristé, orphelin. Donc, disons, bon, définition donc, d'une tâche qui est propre donc, au poète, au philosophe, ou dans le vieux saltimbanque, ce qu'on appellera l'homme occupé des travaux spirituels. On peut dire l'homme de la rêverie, mais la rêverie justement comme suspension, en quelque sorte, des connexions sensibles ordinaires. Bon, et donc, on voit clairement pourquoi, disons, la joie des riches n'est pas intéressante, parce que la joie des riches est normale, la joie des riches, disons, et la joie de ceux qui ont des raisons d'être riches. C'est en quelque sorte la joie qui a ses manifestations qui sont bien connues, qui a ses formes d'expression qui sont bien connues, c'est-à-dire ses signes évidents, et bon, le loisir des hommes de loisir, on a quelque chose. C'est quelque chose comme une tautologie qui n'est pas intéressante à explorer. Bon, ce qui est intéressant à explorer, donc, c'est l'autre côté, donc, dire tout ce qui n'est pas la joie des riches, qui peut être, donc, bon, disons, la joie des pauvres, la joie des pauvres, ou le malheur des pauvres, disons, éventuellement, la joie des riches, mais la joie des riches comme réfléchie dans le regard des pauvres. Bon, là, je crois que c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ces textes qui décrivent cela. Ces textes qui décrivent justement cette espèce de, de processus comme de réflexion, justement, d'une joie d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre de la société. Si vous prenez dans les veuves, à peu près vers le milieu du texte, donc c'est la seconde, il s'agit de la seconde veuve, je ne puis m'empêcher de jeter un regard, sinon universellement sympathique, ou au moins curieux, sur la foule de parias qui se presse autour de l'enceinte d'un concert public. L'orchestre jette à travers la nuit les chants de fête, de triomphe ou de volupté. Les robes traînent en miroitant, les regards se croisent, les oisifs fatigués de n'avoir rien fait se dandinent, feignant de déguster indolemment la musique. Ici, rien que de riche, d'heureux, rien qui ne respire et n'inspire l'insouciance et le plaisir de se laisser vivre. Rien, excepté l'aspect de cette tourbe qui s'appuie là-bas sur la barrière extérieure, attrapant gratis au gré du vent un lambeau de musique et regardant l'intense lente fournaise intérieure. C'est toujours chose intéressante que ce reflet de la joie du riche au fond de l'œil du beau. On sait que ce thème est repris dans un poème en prose spécifique donc, qui s'appelle les yeux des pauvres, donc, où là il s'agit donc de la fédération des trois, donc, du père et de ses deux enfants qui sont en face, qui ont cette merveille, que constituent les sculptures rococo, disons, des cafés, des boutiques, disons, qui font un petit peu du néo-grec pour attirer la clientèle. L'argument pourrait-on dire, c'est que bon, c'est justement le reflet de la joie du riche dans l'œil du pauvre, c'est quelque chose comme une joie qui est idéalisée précisément par cette réflexion. La joie du riche, on peut dire écodée, donc en quelque sorte toute matérielle, quoi. De même, le malheur du pauvre, le deuil du riche est codé. En revanche, le deuil du pauvre, il y manque quelque chose, précisément. Donc le deuil est plus navrant, mais ça veut dire aussi, en un sens, est de certaine façon transfiguré par le fait même qu'il manque quelque chose, au deuil, quoi. Donc, face à ce deuil auquel il manque quelque chose, il y a cette joie qui est une joie par réflexion. Donc on peut dire une joie qui est idéalisée précisément parce que elle est passée de l'autre côté, elle n'a plus le statut d'une expression normale, d'une situation normale, mais elle a le statut d'un phénomène de réflexion. Donc la joie du riche, qui n'est que la joie du riche, devient un poème dans les yeux du pauvre parce que justement l'expression est déviée, elle est passée en devenant quelque chose comme un reflet dans un regard. Elle est passée à un degré supérieur, elle soustrait à une espèce de connexion causale immédiate, elle demande à être imaginée, quelque chose qui est dans le regard du pauvre, qui précisément ne lui appartient pas, qui est le reflet d'une autre situation, donc demande à être mis en poème. À savoir, la joie vide qui devient en quelque sorte comme une forme poétique si elle se réfléchit dans ses yeux qui ne peuvent que la regarder de l'extérieur, de l'autre côté de la barrière. Donc ce qui se définit ici, c'est au fond une espèce de synchronisme entre cette joie réfléchie ou cette douleur, ce deuil finalement, qui ne sait pas, auquel il manque quelque chose, et puis donc la rêverie poétique. Parce que la rêverie poétique, telle qui s'écrit dans le poème, parce qu'il y a dans la tête simplement du poète. La rêverie, c'est pas ce qu'on a dans la tête, mais c'est effectivement ce qui s'écrit, en l'occurrence. Est au fond comme une espèce, encore une fois, de structure perceptive, comme la perception un petit peu des déclivités, des écarts, des distances, des phénomènes de réflexion qui, en quelque sorte, viennent comme soulever la surface normale des choses, la surface en quelque sorte normale des situations et des formes d'expression. Donc encore une fois, le poème apparaît non pas comme une invention, mais comme une sorte de structure perceptive, comme un mode d'appréhension qui a comme pour corrélat, cette espèce de, en quelque sorte, de demi-deuil ou bien de joie par réflexion. Donc, mais avec, en même temps, ce qui est intéressant, c'est la manière dont justement cette structure perceptive est elle-même décrite. Quoi. Parce que là encore, on peut dire que, le poète, s'octroie une espèce de toute puissance plus ou moins imaginaire. Un œil expérimenté ne s'y trompe jamais. C'est le troisième paragraphe. Un œil expérimenté ne s'y trompe jamais. Dans ses très rigides doigts battus, dans ses yeux caves et ternes, brillant des derniers éclairs de la lutte, dans ses rives profondes et nombreuses, dans ses démarches si aussi lente, aussi saccadée, il déchiffre tout de suite les innombrables légendes de l'amour trompé, du dévouement méconnu, des efforts non récompensés, de la faim et du froid humblement, silencieusement supportés. Donc, affirmation, on peut dire, du travail fictionnel ici, en quelque sorte, à savoir, font écrire les légendes qui sont contenues, et qui sont contenues dans les yeux des pauvres, ou dans la démarche de la... Bon, bien sûr, il faut penser ici légende au double sens du mot légende en français, quoi. À savoir, bon, la légende comme histoire fabuleuse, légendaire, mais la légende au sens donc de ce qu'on met en dessous d'une image pour expliquer le contenu de cette image. Donc, l'image, donc la légende donc, au sens du texte qui dit ce que dit, le texte qui dit ce que dit l'image. Et donc, bon, au fond, le poète ici se donne comme celui qui est capable de mettre le texte, qui correspond au spectacle. Au spectacle entre deux. Bon, en même temps, disons, bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, cette espèce de déchiffrement immédiat de l'œil expérimenté, en un sens, ne déchiffre rien du tout. Déchiffre le fait qu'il y a de la légende à déchiffrer, mais d'une certaine façon, bon, cette légende n'est pas déchiffrée elle-même. Si on prend la suite, avez-vous quelque part aperçu des veuves sur ces bancs solitaires, des veuves pauvres, qu'elles soient en deuil ou non, il est facile de les reconnaître. D'abord, il y a toujours dans le deuil du pauvre donc, quelque chose qui manque, une absence d'harmonie qui le rend plus navrant, il est contraint de l'isoler sur sa main-d'œuvre. Le riche porte la sienne au grand compte. Bon, texte que j'ai un peu commenté, mais ce qui est remarquable d'une certaine façon, c'est qu'on ne déchiffre rien que du manque finalement. On ne déchiffre aucun trait caractéristique, aucun trait positif. On ne déchiffre quoi que une tonalité. Qui est la tonalité du manque, à savoir du manque, justement aussi du manque d'une possibilité de signifier le manque sous une forme qui soit au fond, identifiable, reconnaissable. Et au fond, ça va caractériser un petit peu la suite de l'histoire de la vieille, quoi. Donc il décrit la manière dont il suit donc une de ses veuves. Et bon, si vous prenez un petit peu le texte, elle était évidemment condamnée par une absolue solitude à des habitudes de vieux célibataires, et le caractère masculin de ses mœurs ajoutait un piquant mystérieux à leur austérité. Je ne sais dans quel misérable café et de quelle façon elle déjeuna. Je la suivis au cabinet de lecture, je l'épiais longtemps, pendant qu'elle cherchait dans les gazettes, avec des yeux actifs, jadis brûlés par les larmes, des nouvelles d'un intérêt puissant et personnel. Il est clair que, disons, ce que sont les nouvelles et quel est l'intérêt puissant et personnel, nous est entièrement inconnu. Donc, d'une certaine façon, bon, disons, on décrit quelque chose comme une filature policière un peu à la Edgar Poe, quoi. Mais finalement, même si on observe les yeux, bon, on observe le fait qu'elle regarde les journaux, ça doit être intéressant, mais bon, en quoi consiste l'intérêt, on n'a pas la moindre idée. Quoi. De même, bon, plus loin, lorsqu'elle s'assoit à l'écart dans le jardin pour entendre donc un concert gratuit donné par la musique militaire, c'était sans doute là la petite débauche, cette vieille innocente, ou de cette vieille purifiée, la consolation bien gagnée de ces lourdes journées sans amis, sans causerie, sans joie, etc. Remarque au passage le sans doute là la petite débauche, cette vieille innocente, et une nouvelle hypothèse, entre parenthèses, de cette vieille purifiée. Après tout, cette veuve peut être aussi bien, disons, une veuve exemplaire que finalement, disons, une viveuse repentie. D'une certaine façon, le déchiffrement de la légende n'a rien déchiffré. Donc, bon, ce qui est intéressant, donc, au fond, c'est que bon, on multiplie les hypothèses, mais d'une certaine façon, l'interprétation reste suspendue. Et au fond, il y a comme une espèce de tension entre trois choses. Quelque chose, comme en quelque sorte, on pourrait appeler un œil photographique, comme un œil qui fixe, comme ça, une espèce d'instantané, quoi. Deuxièmement, une affirmation de lisibilité. Bon. Nous pouvons lire les légendes, je peux lire les légendes. Mais troisièmement, une indétermination, en fait, bon, de ce qui est lu. Quoi. Ce qui fait que la légende, bon, en même temps, on dirait ça, disons, ça fixe un statut de la légende. On sait que dans tout l'avenir, justement, un petit peu, disons, du texte illustré ou de la photo légendée, bon, justement, bon, la légende, très souvent, sera quelque chose qui ajoutera une dimension un petit peu. Bon, d'inconnu, de mystère, d'équivoque à la netteté, en quelque sorte, de l'image. Bon. Donc, d'une certaine façon, donc, au fond, d'une certaine, ce qui se définit, c'est à la fois cette espèce de bon, netteté d'une vision, affirmation que la vision est entièrement lisible, et en même temps, comme une espèce de recul de cette lisibilité. Cette lisibilité, finalement, ne dit rien, quoi. Et bon, on peut penser ici, effectivement, à ce que dit Edgar Poe dans L'homme des foules, à savoir que, disons, qu'il est le personnage qui ne se laisse pas lire. Donc, le poème en prose, d'une certaine façon, là, lit ce qui ne se laisse pas lire. Donc, lecture contradictoire, puisque à la limite, finalement, ce que le lecteur lit, ça n'est rien d'autre, finalement, que les mirages produits par sa propre position d'observateur. Bon, c'est ce que Baudelaire concède, disons, en toutes lettres, dans le poème qui s'appelle Les Fenêtres, donc, qui est le 35 de la série. Donc, je prends un intégrité, puisque bon, il n'est pas très long. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est pour moi intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penché sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'était été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Bon, autrement dit, d'une certaine façon, bon, deux choses doivent être tenues ensemble. On voit plus à travers la fenêtre fermée qu'à travers la fenêtre ouverte. On voit plus dans l'obscurité de la lampe, dans la lumière de la lampe qu'à la lumière du soleil. On voit plus finalement dans une monade fermée que dans un, disons, dans un monde ouvert. On peut tout reconstruire de ce que finalement contient toute menace fermée aperçue de loin à travers une fenêtre. Bon. Mais bon, en même temps, d'une certaine façon, peu importe la véridicité de la légende qu'on décrit. D'une certaine façon, à la limite, le poème est le poème voyeur, le poème de celui qui regarde, d'une certaine façon, se met en scène lui-même comme celui qui perçoit les légendes du visible, ou si on veut les possibles du visible. Donc au fond, le poème apparaît comme une espèce de rencontre suspendue, et dire une rencontre qui est réussie pour autant qu'elle est manquée. Et donc, pour autant que finalement, donc, il y a cette espèce de promesse de déchiffrement, promesse de lisibilité, qui est trahie, quoi. Promesse d'histoire, promesse d'action, et en même temps l'action se trouve soustraite, quoi. Et bon, c'est ce que je voudrais un petit peu revoir aussi à travers l'autre poème que j'avais donné à voir, à savoir le vieux saltimbanque. Le vieux saltimbanque avec cette histoire de la baraque vide. Bon, donc, j'ai choisi un petit peu ce poème parce que c'est l'occasion notamment de mettre en série trois baraques forêts-vides. Là, disons, au XIXe siècle, à ma connaissance, au moins trois auteurs bon, majeurs qui ont mis chacun une baraque vide dans leur fiction, à savoir Balzac, Baudelaire et Mallarmé. Mallarmé, dans la déclaration foraine, c'est pour la suite, quoi. Balzac, je vous renvoie à ce passage des Illusions perdues, qui décrit donc ces galeries de bois qui occupaient le palais royal avant d'être détruites au moment de la restauration, quoi. Et donc, un peu de description des baraques vides, et donc il y a une des baraques sur lesquelles il est marqué à l'entrée, etc. Ici, bon, entrez, ici vous verrez ce que Dieu lui-même ne voit pas. Quand tout le monde rentre, il y a simplement à l'intérieur un miroir où chacun peut voir son image. Et donc, quand ils sortent furieux, etc., d'avoir donné leur argent pour ça, ils leur disent, excusez-moi, mais Dieu ne voit pas son image, vous avez vu effectivement ce que Dieu n'a pas vu. Donc, d'une certaine façon, une baraque vide remplie par un artifice. schéma l'armée, dans la déclaration foraine, on aura un petit peu la même chose, quoi, à savoir une baraque vide remplie par l'artifice que construisent ensemble le poète et sa dame. Entre les deux, bon, pour dire Baudelaire, ce qui est significatif, c'est bon, précisément une baraque vide qui reste vide. Une baraque vide qui reste vide, dans laquelle on ne rentrera pas. Bon, si je prends dans le... Et bon, ce qui reste, en quelque sorte, c'est précisément comme une espèce de, disons, pur rapport, là encore une fois, un petit peu de, au fond, d'opposition entre la joie d'un côté, la tristesse de l'autre, bon, le débauche de vitalité, et bon, la baraque qui apparemment ne promet rien. Bon, si je prends les deux paragraphes qui, disons, qui résument cela, partout la joie, le gain, donc c'est le 3e, 4e, 5e, 6e paragraphe, partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout l'explosion frénétique de la vitalité, ici, donc, chez ce vieux. Donc, disons, exilé, ce vieil qui est comme exilé, la misère absolue, la misère affublée pour comble d'horreur de haillons comiques, où la nécessité bien plus que l'art introduit le contraste. Il ne riait pas le misérable, il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable, il n'implorait pas, il était muet et immobile, il avait renoncé, il avait abdiqué, sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il le promenait sur la foule, et les lumières dans le plot mouvant s'arrêtaient à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Bon, les larmes rebelles qui ne veulent pas tomber, on peut dire qu'effectivement, c'est une image superbe, mais je dirais qu'on voit bien en même temps, je demande qu'est-ce qu'il y a, disons, la situation qui est créée, quoi, à savoir, bon, il y a un seuil, une limite, bon, d'un côté, bon, l'explosion, d'un côté, il y a l'explosion, disons, de vitalité, de l'autre, il y a, disons, cette espèce de misère, bon, exhibée, misère exhibée, dont le reflet lui-même, bon, le reflet lui-même, comment est-ce qu'il est décrit, quoi, donc finalement, disons, reflet de la joie du pauvre dans l'œil, donc, de celui qui a même rien à offrir, même au pauvre, quoi, finalement, il n'y a plus rien à offrir pour se réjouir, quoi. Bon, mais qu'est-ce qui est dit de ce regard? Il est dit de ce regard que c'est un regard profond, inoubliable. Et encore une fois, un regard profond, inoubliable, évidemment, ne dit en rien, finalement, ce qui habite ce regard. Bon, aussi bien, d'une certaine façon, on dirait, bon, au regard profond, mais d'une certaine façon indéterminée, va correspondre l'acte manqué, ou l'acte promis mais non effectué du poète, donc, bon, qui précisément, lui aussi renonce, bon, disons, le saltimbanque a renoncé, lui renonce, aussi, que faire, à quoi bon demander à l'infortuné, quelle curiosité, quelle merveille il a à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté. En vérité, je n'osais, et dû la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerais que je craignais de l'humilier. Donc, d'une certaine façon, on ne force pas le seuil, on ne force pas le regard, et donc l'idée du poète n'est pas d'entrer dans la boutique, l'idée du poète est simplement d'agir, non pas en poète, en un sens, mais en homme charitable, à savoir de lui laisser quelques pièces et puis de s'en aller discrètement. Mais malheureusement, même ça, il ne le fait pas, puisque donc, disons, si vous prenez la suite, donc la foule arrive, il est bon, embarqué quelque part, je voulais me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ces planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand refus du peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de là. Autrement dit, bon, la foule entraîne celui qui voulait donner, disons, faire quelque chose, donner 3 sous aux pauvres, et par conséquent, on peut dire que bon, bah, disons, rien n'a eu lieu, quoi. Prendre une expression malarméenne, veut dire là vraiment rien n'a eu lieu que le lieu. Donc, on peut dire, le poème en prose encore se définit comme quelque chose, comme une espèce de, disons, comme un poème de l'inaccompli. Un poème de l'inaccompli, bon, comme un regard qui ne dit rien, et un acte qui est un acte suspendu. Quoi. Suspendu à ceci près que ici, bon, il y a une espèce de retombée un peu lourde, bon, la moralité un petit peu de fable, où finalement le poème s'achève en une espèce de fable avec sa moralité. Dira, je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublié ne veut plus entrer. Bon, le problème, en un sens, c'est que bon, le vieil homme de lettres, bon, ça ne nous intéresse pas. D'une certaine façon, ce qui intéresse le lecteur du poème, en un sens, c'est ce qui advient de la situation nouée finalement par le rapport entre bon, le visiteur, la fête, et puis disons la baraque présumée vide, ou la baraque dont on demande ce qui va arriver, et d'une certaine façon, bon, dire que là, en quelque sorte, la révélation promise est manquée, et ce qui vient à la place, bon, c'est une moralité là relativement un peu plate, quoi, à savoir, bon, ben, c'est ce vieux saltimbanque, c'est comme le vieil homme de lettres, et bon, effectivement, ils ont une identification de, disons, un petit peu de l'homme de lettres, surtout sur l'homme de lettres, un peu sur le retour, disons, sur le déclin au saltimbanque, et bon, relativement convenu, quoi. Donc, finalement, bon, d'une certaine façon, il y a comme une espèce de manque, justement, à donner au poème ses véritables conclusions, quoi, à moins que, précisément, le poème soit fait pour être suspendu, quoi. Pour être suspendu dans cette espèce d'acte, en quelque sorte, de donner une légende, mais comme manière de souligner un spectacle, souligner une rencontre, mais la souligner justement sur la mode de, sur le mode de la rencontre qui reste, bon, qui reste énigmatique, du spectacle qui ne pas son secret, ou de l'acte qui finalement n'a pas lieu. Autrement dit, bon, disons par rapport un petit peu au modèle et, bon, initial, quoi, disons, on peut dire que le drame virtuel reste virtuel. Au fond, le poème en prose ici se définit précisément comme, en quelque sorte, comme la virtualité de ce virtuel, quoi. Et d'une certaine façon, du coup, le poème peut se refermer, bon, sur son espace propre, quoi, en laissant la situation à son indétermination et, au fond, l'action à son inaccomplissement. Bon, c'est par rapport à cette espèce d'inaccomplissement, donc, que je voudrais un petit peu étudier deux stratégies différentes, qui sont les stratégies du passage à l'acte, mais très différentes dans leur principe, donc, et qui sont à l'œuvre, d'une part, dans les trois nouvelles de Maupassant, et d'autre part, dans les deux poèmes en prose, de Mallarmé, qui justement propose, enfin, j'y reviendrai, justement, comme une espèce de déplacement, en quelque sorte, de la structure fictionnelle du poème en prose. Mais donc, je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu sur ces trois nouvelles de Maupassant. Elle relève d'une même stratégie d'ensemble qui est d'utiliser la forme courte, non pas pour, en quelque sorte, laisser la situation à son indétermination, comme dans le poème baudelairien, mais utiliser la forme courte, au contraire, comme une espèce de forme d'accélération, une façon de faire de la fiction comme une opération ponctuelle. Au fond, on peut dire que ces trois nouvelles-là, mais au fond, on peut dire que la plupart des nouvelles de Maupassant se définissent comme ça. Mais on peut penser à d'autres aussi, on peut penser à des nouvelles de Tchekhov, par exemple, qui sont aussi sur ce modèle un petit peu, en quelque sorte, de l'opération dans une situation un peu normale, et puis d'un coup, et quelque chose un petit peu qui va tomber comme une espèce de scalpel qui entre, un trou qui est foré, on rentre un petit peu dans une espèce de profondeur un petit peu vertigineuse. Je pense à cette nouvelle de Tchekhov, comme ça, où il y a le vieux professeur de l'école de la fabrique, qui va au banquet annuel, bon, comme tous les ans, et le directeur de la fabrique qui fait son éloge, encore plus appuyé que d'habitude, et puis bon, l'éloge du directeur de la fabrique, donc l'instituteur est tout remonté comme ça par ses éloges, quoi. Simplement à la fin du grand éloge, le directeur de la fabrique reprend la parole pour reconnaître tout le bien que l'instituteur a fait à l'école de la fabrique, que l'usine a décidé de constituer une petite rente pour sa femme et ses enfants. Pourquoi pas moi, quoi. Bon, il comprend que ça veut dire que les gens, tout le monde sait qu'il va mourir, quoi. Et effectivement, bon, disons, il s'effondre en pleurs, et on le ramène chez lui, et il meurt la semaine. C'est pour dire que ce que j'essaie de décrire ici n'est pas simplement, disons, le propre d'un auteur, mais une espèce de structure qui est une structure. Bon, effectivement, c'est intéressant, qui n'est pas lié au grand problème à la forme courte, mais je dirais un usage d'époque de la forme courte. C'est-à-dire que là encore, on a à faire quelque chose comme un rapport entre une forme et en même temps, disons, un mode d'historicité qui fait que cette forme, disons, au fond, va servir à un certain type de mise en scène de l'expérience. Donc ici, bon, ce qui est intéressant, c'est de dire, donc, mais ça, donc, et bon, c'est dans les trois nouvelles que j'ai, euh, bon, que j'ai choisi. Donc, il faut dire, bon, encore une fois, dans pratiquement toutes les nouvelles de Mallarmé, on a la même structure, à savoir cette paix comme cette paix de coups de scalpel ou de forage, quoi. Bon, on entre dans les profondeurs d'un coup d'une situation qui avait l'air complètement normale, spectacle parisien normal, histoire de famille sans histoire, et ainsi de suite. Et puis bon, donc il y a ce trou, avec en même temps deux issues possibles, et en un sens équivalentes, quoi, à savoir, bon, ben, l'effondrement, quoi, ça va jusqu'à la fin, le drame, le suicide, la mort, la folie, ou bien l'autre issue, à savoir au contraire, bon, ça se cicatrise, tout s'arrange, finalement, l'abîme ouvert, au super recouvert, traité en dérision, ou bien en quelque sorte accepté et puis refermé. Et bon, on a comme une poétique de la nouvelle qui est justement en quelque sorte comme une espèce de jeu constant sur les deux issues possibles, l'issue catastrophique ou l'issue où tout au contraire tout s'arrange et où tout va, disons, rentrer dans l'ordre. Bon, si on avait le temps, comme ça montrer ça. Effectivement, c'est une espèce de systématique en quelque sorte, chez Maupassant, où on traite très souvent évidemment les mêmes situations qui reviennent, quoi. Mais avec, justement, on peut dire, tantôt, l'issue catastrophique, du genre, le veuf qui se suicide lorsqu'il finit par comprendre que l'enfant de sa chair adorée, etc., qui reste d'elle, en fait, n'est pas de lui, quoi. Et bon, il se suicide, et puis inversement, des histoires d'enfants que finalement, d'enfants adultérins que la famille, légitime accepte, y compris l'histoire. Un peu terrifiante comme ça, du type qui se marie, il y a sa maîtresse qui accouche en même temps qu'il se marie, qui meurt en couche, il revient à la maison à mille ses noces avec l'enfant, et puis la femme dit bon, bah, on l'élève. Donc il y a toujours cette paix de jeu en quelque sorte entre ces deux possibles. Quand même, bon, je n'entre pas dans trop de détails, bon, j'essaye de voir un petit peu comment ça fonctionne dans les trois nouvelles donc, que je vais proposer, quoi. Bon, je commence par Promenade. Bon, Promenade que j'ai choisi parce que c'est un peu évidemment la version noire, disons un petit peu du poème en prose moderniste sur les lumières de la ville, les loisirs du pauvre, disons le spectacle parisien. Il y a beaucoup de passages en quelque sorte qui pourraient faire partie effectivement d'une espèce d'idylle, disons, du poème en prose. Bon, par exemple ceci, il gagna les boulevards où coulait un flot de monde, les arbres reverdis. C'était un soir de printemps, ces premiers soirs chauds et mous, qui troublent les cœurs d'une ivresse de vie. Monsieur Lerat allait son passe-outillant de vieux. Il allait avec une gaieté dans l'œil, heureux de la joie universelle et de la tiédeur de l'air. Donc, de joie universelle, en quelque sorte, à laquelle éventuellement, le poète de la vie prosaïque aime à se mêler. Un peu plus loin, il est question encore de l'énorme palpitation de vie qui ressent lorsqu'il s'en va. Après son dîner, vers le bois de Boulogne. Bon, disons que, si on essaye de résumer ce qui est un petit peu la stratégie fictionnelle ici, je dirais que la stratégie fonctionnelle fonctionne comme l'articulation de deux logiques, quoi. Bon, premièrement, une logique de la linéarité, c'est-à-dire, c'est vraiment la promenade, quoi, et on pourrait topographiquement, en quelque sorte, la situer. Bon, il sort de chez lui, il sort de son bureau doit être près d'un quartier. Des affaires, donc vers les boulevards, il passe sur les boulevards, il va vers les Champs-Élysées, il remonte à l'étoile, il va vers le bois de Boulogne, donc il est en ligne droite, quoi. Donc il part de son bureau et ça se termine au bois de Boulogne, d'une certaine façon. Donc ligne absolument droite de la sortie du magasin, comme tous les jours, bon, jusqu'à la pendaison. Bon, ça c'est donc d'un côté linéarité absolue du récit, quoi, et en revanche, disons, s'articule avec une logique que j'appellerais la logique du contre-effet. Logique du contre-effet, dans la mesure où ce qui est décrit, c'est une espèce, disons, d'éveil de la vie, quoi. Bon, le personnage qui a toujours vécu dans la tousaille totale, une vie entièrement réglée, une unité, bon, rythmée, bon, sans joie, etc. Et puis tout d'un coup, comme ça, il découvre la vie, bon, le rayon de soleil, un enchaînement de plaisirs inattendus, le soleil c'est agréable partout, se promener c'est agréable, finalement la nourriture est bonne, il fait beau, on continue encore. Bon. Donc, et puis encore, il y a un refrain qui lui passe dans la tête, donc comme une espèce, disons, en quelque sorte, d'ivresse croissante, comme cette ivresse justement de la foule à laquelle on se mêle, bon, tel que eux d'écrire le poème en prose, quoi. Donc, et puis, bon, ça donc, qui va le conduire au suicide, mais qui va le conduire au suicide, je dirais, comme une espèce de, disons, de conclusion, comme une espèce, je dirais, de fin qui est la moins prévisible des fins possibles. Parce qu'au fond, il y a trois fins prévisibles. Il y a trois fins prévisibles, en quelque sorte, cette histoire de marche un petit peu sur les boulevards, quoi. Bon, il y a ce qu'on appelle la fin anormalement optimiste, quoi, à savoir qu'il retrouve, bon, il retrouve la joie de vivre, il comprend que jusqu'ici, il n'a pas vécu, il se dit que désormais, il va vivre, donc un peu quelque chose, un peu comme une espèce de, une histoire un peu à vouloir être épluché, finalement, une espèce de promenade aussi, qui se termine en rencontre, grâce à la rencontre, on se trouve, relayé par un héritage, et finalement, comme ça, bon, une espèce de vie grise, tout d'un coup, se trouve transporté dans une autre vie, quoi. Donc, au fond, on pourrait imaginer que ça le conduise vers une décision de changer de vie, comme ça, il y a aussi une nouvelle de Maupassant un peu, qui est un petit peu sur une sorte de grisaille comme ça transformée, qui est assez jolie, qui s'appelle la question du latin. La question du latin, donc, c'est l'histoire d'un malheureux surveillant d'une institution, mais qui est très fort en latin, donc il est exploité par sa connaissance du latin, il prépare les gens au concours, il s'en fout du prix au concours. En même temps, il vit dans sa petite chambre un peu misérable, comme ça. Bon, et un de ses élèves, pour lui faire une farce, le persuade que il y a une des petites blanchisseuses au côté de la rue qui est amoureuse de lui. Il mène l'intrigue si bien que finalement ça marche, il se marie, sauf que la blanchisseuse dit, bon bah, le latin ça paye pas, on va faire autre chose, et donc il revoit quelques années après, l'ancien pion professeur de latin, qui est avec sa femme épanouie, et tous les deux épiciers vendant des produits coloniaux. Donc ça c'est une fin possible, on peut imaginer comme ça une fête de rencontre comme ça, quoi. Ça c'est la fin normalement optimiste. Il y aura ce qu'on appelle la fin normalement pessimiste, quoi, qui est celle qu'on attend le plus, quoi. À savoir, bon, il y a sa promenade, c'est l'ivresse, c'est la joie, et puis il rentre chez lui, et puis le lendemain, ça recommence. Et au fond, toute la force, disons, dans le sens de la stratégie fictionnelle, c'est de choisir la fin la moins probable, à savoir la fin anormalement pessimiste, à savoir qu'il se suicide. Et ce qui est remarquable, si vous regardez bien, c'est qu'il se suicide en quelque sorte au moment où la, justement, en quelque sorte l'ivresse, on peut dire, de la multitude et un petit peu de la joie multiple est à son maximum. Si vous prenez un petit peu la dernière page, il entendait autour de lui, au-dessus de lui, partout, une rumeur confuse, immense, continue, faite de bruits innombrables et différents, une rumeur sourde, proche, lointaine, une vague et énorme palpitation de vie. Le souffle de Paris, respirant comme un être colossal. Donc quelque chose comme une espèce d'apothéose en quelque sorte, cette espèce de soirée de vitalité parisienne et printanière, et puis arrive là, bon, uniquement les pointillés qui sont le suicide entièrement évité, absolument interdit, puisque c'est le lendemain qu'on le découvrira. Et bon, le suicide qui du coup va être quelque chose comme proprement, bon, un suicide absolument sans cause, sinon justement cette espèce de petit écart, comme ça, comme de déclivité, dans le cours ordinaire des jours, quoi. En quelque sorte, le quotidien misérable dérangé justement par l'ivresse des foules, de la fête, de la réjouissance, et ainsi de suite. Donc on pourrait dire que c'est proprement, au fond, le matériel du poème en prose qui tourne au drame, quoi, finalement. On pourrait dire ça, finalement. Cette espèce de matière du poème en prose, la ville multiple, innombrable, avec sa rumeur, cette espèce d'effervescence, qui produit le drame. Le drame, on pourrait dire, précisément parce que le malheureux, le rat, etc., est teneur de livres et non pas poète. N'étant pas poète, d'une certaine façon, il ne peut pas s'approprier, justement, la poésie de la foule. Donc, il ne peut pas régler, finalement, sa perception, laisser, en quelque sorte, cette poésie, son indétermination, mais qu'il est obligé, de la rapporter à soi-même, et même coup, de se dire, bon, j'ai vécu comme un... Enfin, un temps de... Le raisonnement, c'est moi qui le tiens. Précisément, le raisonnement n'a pas lieu, quoi. Mais en tout cas, bon, disons, le raisonnement, il est dans les pointillés, quoi. On va se dire, effectivement, c'est plus la peine de vivre. Bon, il y a un mot, il faut regarder, éventuellement, il y a une autre nouvelle, à peine une nouvelle, qui s'appelle Suicide, qui est comme une espèce de commentaire, qui s'appelle Suicide au pluriel, quoi. Qui est sous thème, d'autres thèmes aussi, pourquoi on suicide, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est l'individu qui, un soir, décide de lire ses lettres. Il relit toutes ses lettres, il commence par les lettres des connaissances actuelles, bon, rien de particulier, quoi. Puis, il remonte de plus en plus, et puis jusqu'au moment où il arrive à une lettre d'enfant, comme un peu comme ces lettres que dans le temps les instituteurs faisaient écrire aux enfants, à leurs parents, etc. putain, mon chéri, je te remercie de m'avoir donné la vie, etc. Puis la lettre, elle arrange, et puis je se tue. Bah, justement, au fond, il se tue, et la moralité, c'est ne relisez jamais vos vieilles lettres. Voilà, bon, c'est pour dire, encore une fois, d'une certaine façon, comme l'objet de la mélancolie du poème en prose, de l'espèce de mélancolie douce du poème en prose, ce qui d'un coup devient comme une espèce de couperet qui fait passer les gens à la mort. Bon, si je prends les tombales, bien sûr, les tombales, on peut dire qu'on a la figure exactement inverse en un sens, soit puisque, disons, le drame se termine en comédie. Quoi. Mais bon, je l'ai choisi aussi parce qu'on est un peu dans ce même décor parisien, un décor un peu de poème en prose, soit pour le décor parisien comme le lieu justement où à la fois on s'en va à l'aventure et en même temps on s'en va à l'aventure en cherchant certains lieux particuliers. Quoi. Bon, donc, dans les tombes, donc, si vous prenez un petit peu le discours du personnage donc, qui raconte son histoire, l'homme bon, qui décrit effectivement comme une espèce de curieux par profession. Quoi, l'homme dans sa profession, justement, un petit peu d'être comme une espèce de. Disons de poète en prose au petit pied, quoi, qui va regarder un petit peu dans les rues de Paris les spectacles les curieux. Donc, bon, voilà comment se commence son récit. Vous savez que je me promène beaucoup dans Paris, comme les bibelotiers qui fouillent les vitrines. Moi, je vais les spectacles, les gens, tout ce qui passe et tout ce qui se passe. Or, vers la mi-septembre, il faisait très beau à ce moment-là. Je sortis de chez moi l'après-midi sans savoir où j'irais. On a toujours un vague désir de faire visite à une jolie femme quelconque. On choisit sa galerie, on les compare à sa pensée, on pèse l'intérêt qu'elle nous inspire, le charme qu'elle nous impose. On se décide enfin suivant l'attraction du jour. Mais quand le soleil est très beau et l'air tiède, il vous enlève souvent toute envie de visite. Le soleil était beau et l'air tiède, j'allumais un cigare et on allait tout bêtement sur le boulevard extérieur. Puis comme je flânais, l'idée me vint de pousser jusqu'au cimetière Montmartre et d'y entrer. J'aime beaucoup les cimetières, moi ça me repose et me mélancolise. Une mélancolie, c'est bien sûr un néologisme joliment trouvé par Mallarmé. Donc, quelque chose comme un personnage un petit peu dans une situation, disons, de flâneur baudelairien qui se dirige finalement vers ces lieux où on rencontre les éclopés de la vie. Et effectivement, il tombe sur le personnage par excellence de poème baudelairien, à savoir la veuve. La veuve, donc, qui est décrite d'abord comme une espèce de statue impénétrable, et puis ensuite, donc, un petit peu comme, disons, une espèce de fontaine, qui, un petit peu, bon, en gros, on peut dire. Ben, cette veuve, je pense que la personne, c'est même la description, c'est-à-dire que, en fait, c'est une statue niobée, quoi, une niobée, donc pleurant, changée en pleurs, disons, changée en pierre, en pleurant ses enfants, quoi, et d'une certaine façon, c'est ça qui est décrit, quoi. Bon, mais, bon, simplement, donc, évidemment, là, disons, on va s'écarter radicalement de Baudelaire, c'est que, bon, premièrement, la rencontre se noue, donc on reste pas comme ça, en quelque sorte, à imaginer les légendes qui sont dans l'œil de la veuve, on rencontre la veuve, et bon, ça se termine donc par cette conclusion galante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en un sens, bon, c'est un thème de littérature misogyne traditionnelle, bon, qui remonte bon, jusqu'à l'Antiquité, avec la fameuse histoire de la matrone d'Éphèse, là, qui ira éplorer sur le corps de son mari, mais que finalement un soldat de garde vient aussi peu soulager, disons, et consoler de la perte de son mari, quoi. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est au fond le système d'écart qui est introduit ici. Mon premier écart dans la description, c'est-à-dire que bon, là, je n'ai plus beaucoup de temps, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, enfin, vous pouvez le revoir, quoi. Justement, la description de la douleur, il n'y a rien, d'une certaine façon, qui justement dise par avance, montre par avance des signes de douleur qu'on pourrait après révoquer en disant, bon c'est la mise en scène de la douleur. Non, précisément, il y a cette espèce de mise en scène un petit peu comme une statue, et puis comme une espèce de statue qui fond, une espèce de statue qui s'effondre, une espèce de statue qui s'effondrerait. Bon, donc, d'une certaine façon, ni le spectacle normal de la douleur, ni le spectacle, on pourrait dire, est exagéré, donc on sait que c'est du fou. Donc une espèce d'indétermination qui est maintenue dans le spectacle. Bon, deuxièmement, ce qui est intéressant aussi, bon, ce qui est bon, significatif, c'est la manière dont s'opère donc, finalement la conquête, dont finalement la veuve, qui jusque-là est encore veuve, elle n'a pas, disons, on la suppose encore veuve jusque-là. Finit par accorder ce qu'il demande au monsieur Galant qui l'a reconduit chez lui. Bon, elle se débattait en me repoussant et répétant « Finissez donc !» Quel sens donnait-elle à ce mot? En des cas pareils, finir peut avoir deux sens. Pour la faire taire, je passais des yeux à la bouche, je donnais au mot « finir » la conclusion que je préférais. Elle ne résista pas trop, et quand nous nous regardâmes de nouveau, après cet outrage à la mémoire attendrie du capitaine tué au Tonkin, elle avait un air alangui, attendri, résigné, qui dissipa mes inquiétudes. Bon, je voulais attirer simplement votre attention sur cet adjectif attendri, je participe, c'est attendri. Parce qu'on le retrouve, vous le trouvez dans Mademoiselle Perle, et souvent chez Maupassant, l'attendrissement. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la manière dont elle répond finalement à la galanterie, n'est pas simplement, disons, justement, une espèce de rouerie de quelqu'un qui a mené une bonne farce et qui la voit la réussir, mais justement, l'attendrissement chez Maupassant, souvent, c'est comme une espèce de sentiment ambigu qui s'adresse pas tellement à une personne, mais comme à la vie en général. D'une certaine façon, l'attendrissement s'adresse à une espèce comme d'équivalence entre le vrai et le faux, d'une certaine façon, au fait que la vie et la vie du sentiment, en quelque sorte, contient le faux en elle-même. Donc le sentiment qui n'est pas réponse à une stimulation, mais comme une espèce de consentement à la vie en général, pour autant qu'elle contient aussi le faux. Troisièmement, bien sûr, ce qui est significatif dans ce récit, c'est la suite. La suite, à savoir, la veuve, etc., a été très consolée tout de suite et très vite, et reste donc l'énigme, finalement, ce qu'il appelle l'énigme de psychologie. De quel processus peut-il s'agir, quoi. Et il y aura la réponse en allant au cimetière, en la voyant, donc la même veuve, à nouveau en noir, et sortant, et cette fois-ci, donc, au bras d'un autre homme également secourable, donc, qui va également, sortir avec elle du séminaire pour probablement le même résultat. Dans ce qui est intéressant, d'une certaine façon, c'est la manière dont, précisément, on n'est pas dans l'espèce de situation un peu de vaudeville, de la matrone d'Éphèse, de la veuve consolée, quoi. Mais comme devant l'énigme de à quoi exactement est-ce qu'on a affaire, quoi. Et je m'en allais stupéfait en me demandant, c'est la fin, en me demandant ce que je venais de voir. À quelle race d'être appartenait cette sépulcrale chasseresse? Était-ce une simple fille, une prostituée inspirée qui allait cueillir sur les tombes les hommes tristes, hantés par une femme, épouse ou maîtresse, et troublée encore du souvenir des caresses disparues? Était-elle unique? Sont-elles plusieurs? Est-ce une profession? Fait-on le cimetière comme on fait le trottoir? Les tombales? Ou bien avait-elle eu seule cette idée admirable d'une philosophie profonde d'exploiter les regrets d'amour qu'on ranime en ces lieux funèbres? Ce qui est intéressant, je dirais, c'est cette espèce justement de, on a affaire à ce que j'appellerais comme une espèce de phénomène inverse, puisque finalement on part du drame, on part de la mort et on arrive vers quelque chose, où la mort n'est que supposée, la mort n'est qu'une comédie, mais en même temps, je dirais que le sens même de la comédie reste ambigu, quoi. Donc, d'une certaine façon, il y a comme une espèce de trou, comme ça, on entre dans un abîme, mais on ne sait pas très bien dans quel abîme, quoi. Et justement, ça se termine par une cicatrisation, mais une cicatrisation qui n'est pas vraiment, une cicatrisation, quoi. Parce que finalement, d'une certaine façon, il y a comme une espèce de douleur, en quelque sorte, comme de douleur dans l'interrogation elle-même sur savoir qu'est-ce qui se passe là, quoi. Est comme l'espèce de sentiment d'une vie où, justement, après tout, la réalité du sentiment et la fiction du sentiment peuvent être éventuellement échangées. D'une certaine façon, la douleur, en quelque sorte, elle tient à ça, à savoir que même l'issue heureuse, c'est en même temps une issue heureuse qui contient un peu un abîme. Quoi. Un abîme, à savoir que l'issue heureuse, c'est que, entre la douleur vraie, l'effacement de la douleur vraie, et puis le simple stratagème, mais finalement, on n'est pas capable de décider, parce que finalement, les signes, en quelque sorte, au fond, les signes de la sincérité, les signes de la mensonge du sentiment, sont à peu près équivalents, quoi. Il est 3h15, mais je termine quand même mon passant pour aujourd'hui, parce que la prochaine fois, on aura plus de temps pour discuter. Troisième récit, le plus significatif, c'est Mademoiselle Perle, puisque en un sens, on peut dire que tout est tenu là, on peut dire en équilibre. C'est-à-dire qu'on a trois éléments réunis, on va dire, à savoir, premièrement, l'imprévu, en l'occurrence, donc l'aventure, qui arrive à celui qui, justement, ne cherchait pas l'aventure, la situation donc du jeune homme qui tous les ans est invité donc à tirer les rois dans la famille, dans la famille d'un ami de ses parents. Quoi, donc, il se trouve que, bon, événement imprévu, c'est toujours le maître de maison qui est le roi, c'est lui qui est le roi qui doit choisir une reine. Et donc, en homme prudent, disons, il évite le choix dangereux qui se considère à choisir une des filles de la maison, donc, en sorte à se déclarer, quoi, à se déclarer, donc à s'engager dans des fiançailles inopportunes. En raison de quoi, donc, il choisit Mademoiselle Berne, qui est donc un petit peu comme le meuble dans la maison, celle qui est toujours là, mais bon, dont on ne sait pas qui elle est, etc. On ne sait pas qui elle est, qui est là comme un petit peu. La vieille fille par excellence, entièrement terne. Et puis, il se trouve que, bon, disons, donc, bon, l'imprévu crée justement comme une espèce de terrible, donc, avec l'espèce d'abord d'affolement de la vieille fille, bon, l'affolement donc qui oblige à voir, et bon là je crois qu'il y a quelque chose effectivement là encore qui vient un petit peu bon, du poème en prose, quoi. C'est-à-dire il y a un moment où tout d'un coup on se met à regarder, ça veut dire que ce qui n'avait pas lieu d'exister, ce qui n'était qu'un meuble de la maison devient un être vivant, ce qui était une vieille fille terne devient tout d'un coup bon, un visage animé par un regard qui est enfantin, un regard tout d'un coup qui dit une histoire. Donc au fond, premier élément, on peut dire comme justement la déclivité, l'énigme, un petit peu la faille ouverte de l'univers domestique, quoi. Bon, deuxième élément, bon, le coup de scalpel, donc après le récit dans le billard, donc où Marie a expliqué qui était Mademoiselle Perle, quoi, et bon, disons, donc l'enfant du miracle, en même temps la jolie fille rayonnante, quoi. Donc le coup de scalpel, où donc le narrateur dit à. Ah, le personnage, M. Chantal, c'est vous qui auriez dû l'épouser, au fond, vous l'aimiez. Donc, coup de scalpel qui fait bon, que le personnage va s'effondrer en larmes, avec justement cette espèce de, disons, un peu de mise en scène aussi, de poème en prose, quoi, du chiffon qui sert normalement à essuyer la craie sur la roue du billard qui va servir à essuyer les pleurs, quoi. Et puis après ça, donc, autre réaction, la réaction donc de le coup de scalpel poursuivi, bon, tant qu'à faire, tentant aller jusqu'au bout, se dit-il, et après avoir provoqué l'effondrement donc, de M. Chantal, il va vers Mademoiselle Père, lui disant, mais bon, vous savez, il vous aimait, c'est lui qui aurait dû vous épouser, ainsi de suite. Bon, évanouissement de Mademoiselle Père, les fuites du personnage. Donc deuxième élément, donc espèce comme ça de brutalité en quelque sorte, disons à toute vitesse, on perce le trou, on enfonce le scalpel, on peut dire le poignard pour provoquer cette espèce de double effondrement, quoi. Mais troisième élément, évidemment, la fin suspendue, puisque la liaison, en se mettant lui-même en fuite, en se déclarant en fuite, évidemment, le narrateur nous laisse le choix entre deux fins également possibles, à savoir la production de l'irrémédiable, donc on peut imaginer un double suicide, et aussi autre fin possible, disons sur lequel un petit peu je voudrais m'arrêter, donc la fin qui bon, relève de la cicatrisation, mais on dit d'une forme supérieure, si on pourrait dire de la cicatrisation, donc c'est tout à fait à la fin du récit, donc les deux derniers paragraphes. Je me demandais, ai-je eu tort, ai-je eu raison? Vous avez cela dans l'âme, comme on garde du plomb dans une plaie fermée. Maintenant, ne seront-ils pas plus heureux? Il était trop tard pour recommencer leur torture, et assez tôt pour qu'ils s'en souvinssent avec attendrissement. Peut-être qu'un soir du prochain printemps, ému par un rayon de lune tombé sur l'herbe à leurs pieds, à travers les branches, ils se prendront et se serreront la main en souvenir de toute cette souffrance étouffée et cruelle. Peut-être aussi que cette courte étreinte fera passer dans leurs veines un peu de ce frisson qui ne leur a point connu, et leur jettera à ces morts ressuscités en une seconde la rapide et divine sensation de cette ivresse, de cette folie qui donne aux amoureux plus de bonheur en un tressaillement que n'en peuvent cueillir en toute leur vie les autres hommes. Bon, à propos des morts ressuscités en une seconde, je vous rappelle que c'est à peu près pas exactement à peu près à la même époque que Ibsen écrit sa pièce, que disons, donc ressuscité contre les morts. Bon, mais bon, ce qui est intéressant ici, bon, je pense aussi, c'est la manière dont est souligné, ce que j'ai tout à l'heure, sur, bon, sur la fonction de l'attendrissement. Donc, bon, la bonne hypothèse, on peut dire la bonne hypothèse donc, qui est retenue, c'est encore une fois cette espèce d'attendrissement, à savoir comme, au fond, la production d'une espèce de, comme de, fond, d'expérience sensible supérieure, au fond, la blessure ouverte, cicatrisée, mais en même temps, pour la, comme disons, le fait que la blessure ayant été ouverte, fond, produit pour la capacité de, fond, d'une expression sensible, d'un sentiment d'un type nouveau, donc une espèce d'assentiment à la vie, pour les personnages, pouvant comme, se donner la main comme, à la, comme une espèce donc, d'assomption de la douleur et en même temps de, comme une espèce de. De joie du cimetière d'une certaine façon, mais de joie du cimetière donc, dans la vie elle-même. Bon, ce qui m'intéresse ici, bien sûr, c'est pas tellement ce que ressentent les personnages, mais ce que le récit poursuit et ce que le récit construit, quoi. Et bon, c'est cette stratégie qui, je crois, comme une espèce de stratégie d'animation, de dramatisation, on peut dire, d'un tissu poétique qui est celui du poème en prose, quoi. Bon, liesse populaire, bon, allée fréquentée par les éclopés de la vie, visage éteint, comme ça, qui tout d'un coup, comme ça, laisse percer un éclair de lumière. Quoi. Alors, bon, la stratégie du poème en prose à la Baudelaire, c'était une stratégie, au fond, de, précisément, je dirais, laisser le virtuel au virtuel, laisser les hypothèses un peu à leur incertitude, quoi, pour les légendes sont non dites, quoi. Le drame est laissé à sa virtualité, et donc au fond de l'acte à son accomplissement. Bon, ici, donc, on a comme une espèce de stratégie de la décision, enfin, de l'opération. Quoi. L'opération, donc, si on peut dire que le poème en prose baudelairien, on peut dire un peu de la nature, un peu de la photographie, quoi, parce que quelle qu'ait pu être, disons, l'hostilité de Baudelaire à la photographie, bon, d'une certaine façon, on peut dire que le poème en prose baudelairien, d'une certaine façon, sa poétique, et cette poétique un peu de l'indéterminé, sera bon, largement la poétique de la photographie. Quoi. Et le rêveur, en un sens, le rêveur précisément, construisant les légendes du visible, c'est un peu effectivement quelque chose, un peu comme un photographe bon, saisissant l'indétermination du visible, qui va mettre une légende en dessous. Donc, disons, en face donc, de la stratégie du photographe, il y a quelque chose comme la stratégie du médecin, quoi, qui va entrer. Entrer dans la plaie. Quoi. Donc, disons, la fiction à ce moment-là devient comme le geste d'une actualisation et justement, la forme courte et la forme privilégiée, justement, de cette espèce de rupture. Il y a un équilibre normal des vies qui est rompu. Au fond, le non-dit, le refoulé, le non-su, bon, le non-accepté, tout d'un coup, bon, ça qui émerge, et donc vraiment tout tient à ce moment-là, premièrement, à la vitesse de l'opération, mais tout tient aussi, on peut dire, à la double issue. Quoi. D'une certaine façon, la nouvelle, c'est comme un dénouement, c'est comme si, d'une certaine façon, un récit qui ne serait que son propre dénouement. Quoi. Et bien sûr, la forme de la nouvelle est comme toujours tendue un petit peu vers sa chute. Quoi. Vers sa chute et, en un sens, vers l'équivalence même des chutes, que la chute soit le suicide ou que ce soit l'arrangement. Bon, je vous conseille de regarder un petit peu deux nouvelles de Maupassant qui sont significatives de ce point de vue-là. Quoi. L'une, on pourrait dire une espèce de fond, disons, de normalité qui se termine par un suicide, et l'autre, au contraire, une espèce d'énormité qui se termine par un apaisement. Quoi. Une des nouvelles à laquelle je pense, c'est Petit Soldat. Ça s'appelle Petit Soldat, c'est l'histoire, c'est deux petits soldats bretons qui font leur service militaire à Paris. Quoi, et tous les dimanches, ils s'en vont dans les environs de Paris, donc à Argenteuil, qui a de campagne riante, quoi. Et un jour, ils rencontrent comme ça une espèce de laitière qui est avec sa vache, qui est une paysse, quoi, c'est une bretonne aussi, donc comme ça, ils font une tire de nuée, ça se passe bien, ils sont contents, quoi. Et puis simplement, entre-temps, disons, il y a un des deux soldats qui a repéré que la laitière, finalement, était plutôt joli, quoi, qui s'arrange pour la voir pendant la semaine, qui prend une permission, etc. Le dimanche suivant, il comprend que la laitière, fait affaire avec son copain, quoi. Et donc, bon, après tout, bon, après, c'est de retourner à la caserne, on va dire comme tous les soirs, et puis bon, il repasse sur le pont au-dessus de la Seine, il se penche sur le pont, et puis plonge, comme ça, bon, comme si d'une certaine façon, il plonge non pas par des espoirs amoureux, mais d'une certaine façon comme une situation d'équilibre, enfin normale, qui est comme rompue, quoi. Finalement, il ne pleure pas parce que il pleure pas pour la litière, il pleure pour le copain, quoi. C'est d'une certaine façon, à l'ordre des dimanches est rompu, quoi. L'ordre de l'amitié est rompu, quoi. Donc il se jette à l'eau. Et puis bon, une situation inverse, je vous renvoie à une nouvelle qui s'appelle Denis. Denis, alors c'est l'histoire d'un type que, enfin c'est un, il est domestique chez un pharmacien. Il est domestique chez un pharmacien, apparemment c'est le domestique modèle, depuis très longtemps, etc. Sauf que le pharmacien attend une grosse rentrée d'argent. Le pharmacien attend une grosse rentrée d'argent, et donc le jour où la rentrée d'argent a dû arriver, disons le pharmacien va arriver sur lui, le domestique modèle qui arrive sur lui pour l'étrangler, etc. Il vient le prendre l'argent, et le pharmacien a le réflexe de lui dire j'ai pas touché l'argent, donc du coup ça sert à rien de le tuer, bien sûr. Donc le domestique modèle ne le tue pas, mais il l'a quand même poignardé. Il le soigne ses blessures, bon il arrive à le guérir, et bon le pharmacien ne dit rien, quoi. Et puis bon, il se trouve que bon, un peu plus tard, le domestique du pharmacien a une espèce de contravention pour un truc un peu bénin, et puis alors, il va arriver les gendarmes chez lui, disons, il avoue ce qu'il n'avait pas avoué. Alors du même coup, il passe en justice, et bon, le pharmacien était même pour lui, il m'a soigné avec un dévouement admirable, et ainsi de suite. Alors même quand ça se faisait, que vous ayez rien dit, et la réponse du pharmacien dit c'est si difficile d'avoir des bons domestiques. Voilà, donc bon, c'est en quelque sorte le contre-modèle, de cette façon, de la cicatrisation intégrale, sauf que quand même, malgré tout, le domestique devient fou, et donc il est soigné, donc il est innocenté, on dit c'est un coup de folie, donc il est innocenté, mais simplement on le met à l'asile, et le pharmacien paye les frais de l'asile pour reconnaître les bons services de son domestique. Bon voilà, donc ce type est un petit peu, donc bon, l'important c'est qu'à chaque fois on est comme une espèce de causalité en quelque sorte en défaut, quoi, finalement, d'une certaine façon, pas simplement une espèce de stratégie de la surprise, mais d'une certaine façon comme, tout se passe comme si, disons, les petites causes devaient amener des grands effets, et les grands effets se résorbent, et les grandes causes disons, se résorbaient comme ça, une espèce comme d'effet d'un petit peu de réduction. Bon, j'ai parlé longtemps, excusez-moi, mais la prochaine fois je conclurai assez rapidement. Je conclurai assez rapidement donc, autour des deux poèmes de Mallarmé et puis du texte donc, de la préface de Banville. Si vous avez des questions, ben, je crois qu'on pourra les traiter la prochaine fois. Demain je ne pourrai pas faire ma permanence parce que je ne serai pas là, quoi, simplement. Quoi. Éventuellement, donc s'il y en a qui voulaient me voir demain, moi je suis là dans mon bureau jusqu'à 5h, donc s'il y en a qui veulent. Ils peuvent venir me voir maintenant ou me voir la semaine prochaine, ou donc disons qu'on repartira donc, sur la base des deux textes donc, de Mallarmé. Donc, le spectacle interrompu, la déclaration foraine et de la préface de Banville aux mémoires des frères Annalise. Mais donc, on aura, je vous promets, je ne parlerai pas beaucoup, on aura beaucoup de temps pour discuter. Donc non seulement des textes, ce texte préféré,